Voilà, comme l'a dit Samuel, en effet, nous avons commencé hier, fin d'après-midi, une réflexion sur un événement en particulier qui eut lieu au temps de l'Exode et de Moïse en particulier, sur le tabernacle, cette habitation de Dieu parmi les hommes qui, nous l'avons montré hier, révélée à travers le regard du Nouveau Testament, une christologie, c'est-à-dire une annonce de l'œuvre de Jésus qui aura lieu et qui a eu lieu des siècles plus tard et dont nous avons été les bénéficiaires, bien évidemment. Ce temps était, disais-je hier, l'ombre des choses à venir. Quand vous avez l'ombre qui se joue sur un mur, vous n'avez que le contour, mais vous avez un contour assez précis. Mais vous ne voyez pas tout ce qui est à l'intérieur. Vous ne voyez pas les détails, bien évidemment. Eh bien, c'est un peu comme cela que l'Ancien Testament peut se révéler à nous. Il était l'ombre des choses à venir que le Christ est venu révéler dans sa lumière et a montré tous les détails de façon spectaculaire. Ainsi, on peut dire que l'Ancien Testament est comme une fleur en bouton, tandis que le Nouveau Testament est cette fleur qui s'ouvre et qui exhale le parfum de la grâce. Jésus a dit un jour aux responsables religieux de son temps, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » À travers cette expression qui, sur le moment, a mis en colère ses auditeurs, parce qu'ils pensaient et ils disaient, « mais tu te prends pour qui, toi ? Tu dis que tu étais né avant Abraham, tu nous prends pour des idiots ?» Eh bien, Jésus, en fait, va s'approprier une phrase de son Père qu'il avait prononcée alors à Moïse, au moment où ce dernier reçoit l'appel d'aller en Égypte chercher les Hébreux, tant que nous sommes en train de travailler depuis hier et que nous poursuivrons demain à travers aussi le tabernacle. Et Dieu disait à Moïse, « Je suis ». En fait, l'Éternel répondait à une question du patriarche qui était la suivante. « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je ? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » L'interpellation de Moïse était pertinente, mais elle cachait aussi une mauvaise volonté à répondre à l'appel qui lui était lancé d'aller délivrer ses frères hébreux, esclaves en Égypte depuis 430 ans. Combien d'objections, combien d'excuses que nous découvrons dans ces chapitres 3 et 4 de l'Exode nous montrent cette mauvaise intention au cœur de Moïse, mais Dieu se sert d'hommes qui parfois ne sont pas forcément disponibles, et il veut les transformer. Alors Moïse dira à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» Arrêtons-nous en premier lieu sur cette interpellation de Moïse. « Qui suis-je ? » Au premier abord, dans le contexte de la mission que Dieu veut lui confier, la question de Moïse, qui suis-je, peut laisser apparaître chez lui des sentiments d'incapacité ou d'incompétence. Je pense à une situation du roi David, bien des siècles plus tard, qui, après avoir vaincu les Philistins au nom de Saül, le roi d'Israël, ce dernier lui fait une promesse de lui donner sa fille en mariage. Et voici ce que dit David. « Qui suis-je ? Qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Alors les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. Qui suis-je ?» Et peut-être parmi nous, beaucoup s'interrogent de la même façon. Qui suis-je ? Peut-être avez-vous eu aussi cette interpellation face à un nouveau travail que l'on vous a confié. Mais qui suis-je pour faire ça ? Peut-être avez-vous des sentiments un peu de dépression en disant « Mais qui suis-je pour vivre dans ce monde ? Quelle est ma place ?» Lorsqu'on y pense, pour le cas de Moïse, il y avait de quoi pour lui se sentir incompétent face à la mission confiée, celle de partir et sortir les Hébreux de l'esclave de Pharaon. Car au moment où Dieu l'appelle, Moïse est un berger. Et il est là en train de faire paître ses brebis depuis 40 ans dans le désert. Isolé de tout. Et voilà que soudainement, Dieu l'interpelle et l'appelle. Toutefois, la question « Qui suis-je ?» et qui s'apparente d'après le contexte plus à une objection qu'à une réelle interrogation, pourrait bien aussi être d'ordre psychologique, voire identitaire. En effet, il est une évidence que son enfance a été des plus troublées. Il est né dans des temps difficiles, où son peuple, les Hébreux, en Égypte, était durement éprouvé sous la main de fer de Pharaon. Il fut déposé au bord du fleuve, alors qu'il était encore un bébé, parce qu'il était en danger de mort, Pharaon ayant ordonné de faire tuer tous les petits-enfants mâles qui étaient parmi les esclaves hébreux, pour qu'ils ne deviennent pas encore plus nombreux. Pourquoi seulement les garçons, on peut s'interroger ? Et nous avons une réponse dans l'Écriture. Il nous est dit, un nouveau roi parvint au roi en Égypte, au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous. Les hommes, futurs soldats, doivent être tués. Alors ses parents, et certainement qu'ils n'ont pas été les seuls à le faire, plutôt que de le livrer, ce petit Moïse, aux soldats égyptiens qui entraient dans les maisons avec fracas et violence pour en faire sortir les enfants et les tuer, le livrent à la Providence en le laissant aller vers sa destinée dans un panier d'osier sur le Nil. Une condamnation plus ou moins à mort quand même, car le Nil, avec tous ses dangers, que ce soit la nature et les crocodiles et les animaux, mais aussi les crues, etc., faisait penser aux parents certainement que cet enfant était quand même en sursis. Mais il y a quand même cette foi en leur Dieu qui pouvait aussi intervenir, devait-il penser. Et là, au bord du fleuve, sous la garde de Myriam, la sœur aînée du petit bébé, qui suit des yeux l'épopée, la périclination à venir de son petit enfant, son petit frère, eh bien, il va être recueilli miraculeusement par la fille même de Pharaon, celui même qui veut tuer ses garçons. Et cette fille de Pharaon va l'accueillir comme son fils, après l'avoir laissé le temps du sevrage dans la maison même de ses propres parents. Il nous est dit, la fille de Pharaon répondit et dit, « Emporte cet enfant, donc à Myriam, la sœur de Moïse, et allaite-le pour moi. » Je te donnerai ton salaire. Alors la femme prit l'enfant et l'allaita, sa propre mère. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le temps où le petit enfant va rester chez ses parents, au milieu des esclaves, semble être celui du sevrage, bien évidemment. Il est donc probable qu'il soit resté au milieu des siens quelques années, peut-être 4 ans, 5 ans. Bon. Et on peut imaginer pendant ce temps du sevrage, car des enfants tout petits ne sont pas idiots, réfléchissent aussi, emmagasinent des informations plus que l'on peut imaginer, vont lui parler, vont lui inculquer rapidement peut-être une orientation, une éducation qui est propre au judaïsme, afin qu'il n'oublie pas d'où il vient, car ses parents savaient que la fille de Pharaon le récupérerait une fois le sevrage terminé. Ce qui peut expliquer sa réaction qui va se produire à l'âge de 40 ans. En effet, devenu adulte, il lui vint à l'idée de s'occuper de ses frères les Hébreux, qui étaient toujours là, esclaves, alors que lui était dans la cour du Pharaon, éduqué dans des plats en or. Cette intention peut venir du fait qu'il vient d'apprendre son origine ou qu'il le savait depuis longtemps, mais attendait d'être en âge de pouvoir agir envers son peuple. On ne sait pas. Toujours est-il que d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous lisons « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Une prise de position qui est donnée très claire. Toujours est-il que Étienne, dans son discours juste avant d'être lapidé dans les Actes des Apôtres, nous apprend quelque chose d'intéressant. Il dit « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Et il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme maltraité a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensaient-ils, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ? À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu deux fils. Et c'est dans ce pays de Madian, 40 ans plus tard, que Dieu l'appelle à repartir en Égypte pour délivrer son peuple, les Hébreux. Qui suis-je ? Répond Moïse à ce moment-là. Voyez ce passé, ce passif. Le verset 25 particulier nous dit « Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, mais ils ne l'ont pas compris. » En fait, Moïse a dû se dire « Mais placé où je suis placé, dans la cour de Pharaon, avec l'autorité que je peux avoir, la puissance que je peux avoir, mais je vais pouvoir les aider. Il faut qu'ils le comprennent cela. » Ce n'est pas un hasard que je sois passé là. C'est par hasard que ma vie ait été faite ainsi, adoptée par la fille de Pharaon, moi, l'Hébreu que je suis. Mais ils ne l'ont pas compris. Vous imaginez la déception de Moïse à 40 ans, qui est, avec la force de l'âge, l'envie de faire des choses extraordinaires, et surtout de les délivrer de leur esclavage, se sent complètement anéanti. On peut dire, et une leçon intéressante à ce sujet, que toutes les bonnes raisons ou les bonnes dispositions ne sont pas forcément la volonté de Dieu, pour ne pas dire le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Oui, sur le fond, Moïse a raison. Lorsque, à 40 ans, il souhaite aider ses frères, d'autant qu'il réalise sa position. Il a raison, mais le futur patriarche se montre impatient. C'est un homme violent, un meurtrier. Pensons-nous que Dieu peut se servir d'un tel homme ? Non, il n'est pas encore prêt, mais ça, il ne le sait pas. Et c'est parce qu'on a compris, on a su qu'il était meurtrier, qu'il va s'enfuir dans le désert pour échapper à la justice égyptienne. Parce que tout en étant prince, qu'il était adoptif, il méritait un châtiment. Nous apprendrons un peu plus tard, dans le livre des Nombres, que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Mais oui, mais entre le meurtre de l'Égyptien Et ce texte-là, il y a eu 40 ans de passé. 40 ans de vie dans le désert, avec ses moutons, à réfléchir, à se poser, à vivre sa vie. Combien de serviteurs de Dieu, sincères dans leur désir de servir, se sont cassés le nez parce qu'ils se sont égarés trop vite sous les coups d'une impulsion ou d'une émotion, sans prendre le temps de la formation. Je parle de serviteurs de Dieu, mais je parle aussi de chrétiens que nous sommes les uns les autres, sentant peut-être un appel à faire quelque chose dans le service de Dieu. Il faut le temps de savoir, de comprendre si c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi maintenant. Qui suis-je ? Alors pour les Égyptiens, Moïse est hébreu, et pour les Hébreux, on se méfie de lui parce qu'il a été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Moïse, finalement, se trouve entre le marteau et l'enclume. Il est entre deux cultures, entre deux nationalités, entre deux identités, entre deux peuples. Et c'est pour cela qu'il fuit. Se trouvant dans un pays inconnu, Madian, il va se marier avec cette petite Séphora, qui signifie petit oiseau. Quel joli nom. 40 ans où il va réfléchir, je l'ai dit, 40 ans d'exil, on peut dire. 40 ans, pour être un peu plus actuel dans notre société, de confinement. Oh, un confinement de luxe, en plein désert. 40 ans, mais 40 ans en même temps, tant pour anéantir une vocation, anéantir des projets, et se dire au bout de 10, 20, 30 ans, 40 ans, c'est bon quoi. Je me suis planté bien comme il faut. Finalement, j'étais pas fait pour délivrer mon peuple. Allez Moïse, continue, garde tes moutons, et puis tu mourras. Et Dieu arrive là, pour le chercher. Et c'est naturellement qu'il va dire « Qui suis-je ?»« Mais je ne sais pas qui je suis, » dit Moïse à Dieu. On peut imaginer peut-être que Moïse n'est pas si bien dans sa peau, qu'il est en proie toujours aux doutes, aux questions sans réponse. N'oublions pas que, à ce moment-là, c'est un homme avant d'être un patriarche. Mais je ne dis pas qu'un patriarche devient parfait. Mais c'est l'homme Moïse. Ce que je suis peut remettre en cause des vérités que j'ai reçues. Et cela peut être très déstabilisant. C'est pourquoi la réponse de Dieu à Moïse va être incroyable. Et elle émane d'une question que Moïse lui a posée, que nous avons rappelé au tout début, « Quel est ton nom ?» C'est la première fois que Moïse rencontre l'Éternel, celui dont ses parents peut-être lui ont parlé avant qu'il soit parti à la cour de Pharaon. « Nous avons un Dieu, ne l'oubliez jamais mon petit !» Vous imaginez un petit peu les parents dire ça, en le voyant partir avec la fille de Pharaon. « N'oublie jamais qui tu es Moïse !» Et là, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont on lui a peut-être parlé, se présente à lui. Parce que c'est ce qu'il lui dit dans le buisson ardent. « Je suis l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Quitte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » La réponse de Dieu se trouve dans le « Je suis ». « Celui qui s'appelle Je suis t'envoie. » Et là, je trouve qu'il y a comme un effet miroir entre la question de Moïse intérieure et la réponse de Dieu « Qui suis-je ? » « Qui suis-je ? Je suis !» Il se regarde, cette petite phrase en français se regarde, ne s'oppose pas, elle se reflète. L'affirmation de Dieu lui-même atteste qui il est. Il n'était pas, il ne sera pas, il est. C'est le principe même de l'éternité, dans laquelle nous avons de la peine d'ailleurs à entrer. On nous dit et on nous promet, et je le crois de tout mon cœur, parce que Jésus l'a dit, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire être, avoir la vie éternelle, nous qui sommes des mortels? À quoi pensons-nous quand nous pensons éternité? Très difficile. En dehors de cette affirmation d'éternité, ne pouvions-nous pas y voir aussi, dans ce court dialogue, une manière indirecte de Dieu de dire à son serviteur, futur serviteur, qu'il doit apprendre à se voir à travers le « je suis ». Tu ne sais pas qui tu es, Moïse, et je peux le comprendre avec tout ce que tu as vécu. Mais moi, je sais qui tu es. Moi, le « je suis », celui qui est omniscient, celui qui t'a élevé, celui qui t'a conçu, celui qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et si vous vous interrogez aujourd'hui de la même manière en vous disant « mais qui suis-je ?», eh bien, en Dieu, vous pouvez avoir votre réponse. En entrant dans le « je suis », en ouvrant votre cœur à ce « je suis », vous comprendrez qui vous êtes et ce que Dieu attend de vous. Vous savez, dans la Bible, il nous est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il ne dit pas que Dieu a mis dans le cœur des enfants ou des Hébreux ou de ceux qui sont particulièrement visés la pensée de l'éternité. Tous les êtres humains, qui qu'ils soient, ont cette pensée dans le cœur. C'est pour ça que nous pensons à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'il y a beaucoup de chemins qui y mènent, enfin il n'y en a qu'un, mais le diable nous fait croire qu'il y en a beaucoup. Et la Bible dit aussi que nous avons été créés à son image. Donc quelque part, le « je suis », nous l'avons un peu en nous, puisque nous sommes créés à son image. Et c'est à ce titre que nous cherchons, et vous avez raison, si vous le faites, de chercher ce Dieu qui existe, qui vous a créé et qui vous aime tel que vous êtes. Nous pouvons alors comprendre que notre véritable identité est par-devant nos parents en Dieu, d'abord. Oui, j'ai les gènes de mes parents, bien sûr. Oui, je ressemble à mes parents, bien sûr. Mais je ressemble d'abord à Dieu, parce que c'est lui, mon Créateur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va appeler Moïse dans ce buisson qui brûle sans se consumer, ce qu'il a d'ailleurs interpellé par son prénom, Moïse, Moïse. Vous imaginez un petit peu la scène dans le désert? Parce qu'il entendait, hein? Qui m'appelle? J'entends des voix, c'est quoi? Dieu nous appelle par notre nom. Il me connaît. Le roi David écrivait « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dans les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, vous êtes en train d'étudier ce livre dans votre église, à chaque introduction de toutes ces lettres, les sept, il y a la même information ou le même verbe. Dieu dit « Je connais ce que tu es ». Mais voilà ce que tu as besoin de changer dans ta vie. Et c'est justement cette affirmation d'existence de Dieu à Moïse que Jésus, et j'ai commencé par ce verset tout à l'heure, s'approprie lorsqu'il répond aux pharisiens « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus confirme ce qu'il affirmait plus haut en ces mêmes pharisiens concernant sa venue du ciel et le fait que ce soit le Père qui l'envoie. Il est non seulement l'envoyé du Père pour sauver l'humanité, mais il est aussi Dieu en personne qui prend, et Samuel l'a rappelé, Philippiens 2, la forme d'un serviteur, la forme d'un homme. C'est ce que nous pensons, ce que nous fêtons à Noël, ce petit enfant qui va aller jusqu'à la croix. Et toi, Bethléem, dit le prophète Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Il s'agit de Jésus ici, une prophétie de Jésus. L'apôtre Paul écrira qu'il existe, lui, avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus, arrivant dans le territoire de Césarée de Philippe, nous dit ce texte, demanda à ses disciples « Qui suis-je ?» Tiens, est-il comme Moïse ? Non, bien sûr, ce n'est pas la même question au fond. Mais c'est la même question sur la forme. Qui suis-je ? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, très bien. Ok, vous avez bien récité votre leçon, pas de souci. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle confession ! Et moi, ce que j'aimerais, c'est vous interpeller, que le Seigneur nous interpelle aussi tous de la même manière. Vous, qui dites-vous que je suis ? Ne dites pas, Samuel, notre pasteur, il dit que Jésus est. Oh oui, j'ai entendu dire que Jésus est. Très bien, intellectuellement, il n'y a pas de souci. Mais qui dites-vous qu'il est pour vous ? Et c'est capital de bien savoir où j'en suis pour savoir où je dois aller. Avant qu'Abraham fût, dit Jésus, je suis. Non seulement c'est une affirmation d'existence identique à celle de Dieu son Père, mais c'est aussi une invitation à regarder comme Moïse a regardé à travers ce que Jésus est véritablement, afin que nous puissions réellement nous connaître tels que nous sommes. Aujourd'hui, dans notre société, beaucoup se définissent au travers de leur métier. Qui es-tu ? Que fais-tu ? De leur situation familiale, de leur passion peut-être, de leur caractère ou de leur physique. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous voit. Notre identité en Christ est un thème central et libérateur dans l'Évangile. Et l'apôtre Paul, et je vais terminer par cet exemple, en témoigne de façon particulière. Voici ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, et il parle des autres apôtres, des disciples, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors dans ce passage, Paul, et je cite pas complètement ce passage, ce serait trop long, mais il démarre, avant de dire ça, en rappelant ou en s'appelant un avorton. Pas très positif, si vous allez pour faire une embauche auprès du patron, ne vous allez surtout pas dire je suis un avorton en fait. Vous pouvez m'embaucher si vous voulez, mais sachez que je suis un avorton. Non, selon le dictionnaire d'ailleurs, un avorton c'est un fœtus sorti avant terme du ventre de la mère. Et le terme s'applique bien souvent à un animal qui est né très au-dessous de la grandeur qu'il doit être. Bref, un avorton, c'est un petit homme mal fait, mal bâti. Et il le dit en disant et en se comparant par rapport aux autres apôtres, Paul. Je suis un avorton. Je suis le moindre des apôtres. Pourquoi dit-il ça ? A-t-il raison ? Eh bien parce qu'il pense à ce qu'il a vécu en arrière, dans son passé, et à savoir ce passé de persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, celui qui poursuivait les chrétiens pour les faire tuer. Le Saul s'appelait-il, et a été transformé en Paul. Comment expliquer un tel changement ? La réponse, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu qui lui a été fait. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parler de cette façon pourrait peut-être être une manière de chercher à justifier peut-être un comportement, quel qu'il soit. Vous savez, je pense à ces expressions qu'on a peut-être employées nous-mêmes. Je suis comme ça. Il faudra que vous fassiez avec. Ou bien, c'est mon caractère. Oh, vous savez, je ne suis qu'un homme, ou je ne suis qu'une femme. Ou bien, acceptez-moi tel que je suis. Faites des efforts, vous. Aimez-moi pour ce que je suis. Ou bien, j'aime cette expression parce que nous l'employons parfois, personne n'est parfait. Ou bien, je suis fait comme ça. Ah, tu es fait comme ça. Très bien. Et tu n'as pas envie de changer. Dans une des objections que Moïse donne à Dieu, après avoir vu des signes extraordinaires, on n'a pas le temps d'en parler, Dieu dit « Oh non, c'est bon, j'ai vu, mais j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler en public, et ce n'est pas possible que je puisse parler à Pharaon, pas question d'y aller. » Et Dieu lui dit « Mais attends, Moïse, qui a fait l'homme? Qui a fait ta langue? Qui t'a créé? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Sous-entendu, je sais très bien que tu as un problème de langue. » Et c'est vrai que Moïse devait avoir un problème de langue. Mais Dieu lui dit « C'est pas un problème pour moi. Je peux te changer. » Alors si vous lisez un peu l'histoire de Moïse, vous vous rendrez compte qu'au final, Dieu va se mettre un peu en colère parce que Moïse va être têtu. Et Moïse va devoir prendre son frère Aaron sous l'impulsion de Dieu, qui lui dit « Écoute, maintenant c'est bon, ça suffit. De toute façon, tu vas y aller. Tu ne veux pas parler, il n'y a pas de problème, mais tu iras. Et voilà ton frère, tu le prends avec toi, lui il parlera pour moi. Enfin, il parlera pour toi, et toi tu deviendras Dieu pour lui. » C'est incroyable. Et on se rend compte dans les dix plaies, quand Aaron et Moïse vont vers Pharaon, que Aaron parle effectivement, et qu'au bout de quelques plaies, Moïse prend la parole à Pharaon, devant Pharaon, et commence à devenir le Moïse qui s'affirme. Ah, il nous ressemble bien ce Moïse, hein, et c'est pour ça que nous pouvons l'aimer à ce titre-là. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Paul dit ainsi, « Je viens vers vous non pas comme l'homme que j'étais, mais comme celui qui a été transformé après sa rencontre avec le Je suis. » Et c'est cela que Dieu veut pour chacun de nous, que nous vivions une rencontre personnelle avec le Jésus ressuscité, qui aujourd'hui est prêt à venir nous rencontrer. Et nous pourrions beaucoup ici témoigner de la manière dont nous avons été saisis, dont Dieu nous a rencontrés et qui a changé notre vie. Et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons être dans la paix et dans l'espérance. C'est pour cela qu'il pourra écrire ailleurs l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je ne suis pas parfait, bien évidemment, mais je laisse Christ régner dans mon cœur comme le Seigneur, après avoir été celui qui m'a montré le salut qui m'offrait à la croix lorsqu'il est mort à Golgotha. Et c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour chacun de nous. Quelle bonne nouvelle que l'Évangile, et c'est une répétition volontaire puisque l'Évangile signifie littéralement la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, avec toutes les nouvelles que nous entendons, quand nous regardons les médias, il faut reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup de très bonnes. Alors nous en avons une aujourd'hui. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut faire de nous, avec nous, nous transformer et nous amener déjà en esprit et en vérité dans sa présence avant d'y être réellement. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Que personne ne se prive de cette rencontre que Dieu veut faire avec vous. Alors, je vais conclure en rappelant une dernière parole de Jésus qui vient aussi de ce même texte « Avant qu'Abraham fût, je suis », lorsqu'il dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Nous avons là la clé de l'Évangile, ce qui fait que l'ouverture vers l'éternité dans la présence de Dieu est possible, en réalisant que notre nature, et nous en avons parlé hier après-midi, à propos des sacrifices de l'Ancienne Alliance, notre mauvaise nature, héritée de nos pères, c'est ainsi, ça ne se discute pas, c'est comme ça, nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Et en Christ qui meurt sur la croix, nous avons la possibilité de lui dire « Pardonne mon péché, même si je ne deviendrai pas parfait pour autant, et accueille-moi auprès de toi. » Et les mains du Seigneur sont toujours ouvertes pour celui qui vient. Voilà un appel, mes amis, à réagir. Les temps sont courts, j'en suis convaincu. Je ne suis pas le seul à imaginer cela et à penser cela. La parole de Dieu est en train de révéler, ou en tout cas l'actualité est en train de voir et de mettre la parole de Dieu en avant. Il se passe des choses qui ne sont pas anodine dans notre monde d'aujourd'hui. le Seigneur n'est peut-être pas loin de revenir, comme il l'a promis à ses disciples. Sommes-nous prêts à le recevoir? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser, en sachant que la rencontre avec lui est possible. Mettez Dieu à l'épreuve d'une manière ou d'une autre si vous avez besoin de cela, et il se manifestera à vous. Je le dis. Je le dis par la foi, mais je le dis avec aussi autorité en son nom. Prions encore ensemble. Seigneur Jésus, quel privilège encore de réfléchir à travers l'exemple de ce personnage que nous connaissons à notre propre identité par-devers toi. Qui sommes-nous, Seigneur, devant toi? Qui sommes-nous à tes yeux? Que chacun puisse répondre à cette question. Il y a aujourd'hui, Seigneur, toujours cette ouverture vers ton royaume de Dieu. Mais un jour, cette ouverture se fermera, alors que personne ne se prive aujourd'hui d'aller vers toi. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton mot. Demain ne nous appartient pas. Personne ne peut dire demain. Mais aujourd'hui, je peux faire et dire quelque chose. Oui, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Veuille nous remplir encore de ta connaissance, de ta grâce, et nous amener toujours plus près de toi. Car tu nous combles, Seigneur, de bienfaits. Tu nous nourris. Et nous sommes heureux, Seigneur, de te servir. Amen.